right then or watch it.
La dispute. Ce soir, les arts plastiques. Cette émission est préparée par Aïssa Tundoy, Lucille Como, Boris Pinot et Camille André. Prise de son assurée ce soir par Anthony Thomasson. Réalisation Thomas Beau. Autour de moi ce soir, Corinne Rondeau, Stéphane Coréard et Florian Guettet pour parler ensemble de Jean Fautrier. C'est au Musée d'Art Moderne de la ville de Paris. Et puis deux expositions de la saison Discord, la fille de la nuit au Palais de Tokyo. Neil Belloufa, l'ennemi de mon ennemi. Et puis Kader Attia et Jean-Jacques Lebel, l'un. Et l'autre, Aïssa Tundoy, est avec nous pour surveiller les fils Twitter et Facebook pour donner entendre les commentaires sur notre programme de ce soir. Et puis toujours des cadeaux à gagner grâce au jeu de la dispute ce soir, des places de cinéma pour le film « Avant que nous disparaissions » de Kiyoshi Kurosawa qui est sorti aujourd'hui sur les écrans. Et nous ouvrons cette dispute avec Jean Fautrier, né en 1898, mort en 1964, un artiste que les amateurs d'art connaissent, mais qui reste, ou restait en tout cas, relativement méconnu, quelques-unes de ses séries occultant souvent le reste considérable de son œuvre. Le Musée d'Art Moderne de la ville de Paris ne peut pas en tout cas être accusé de ne rien faire pour sa notoriété, puisque cette rétrospective est la troisième qu'il consacre à ce plasticien, après celle de 1964, évidemment en lien avec la donation que Fautrier a fait au musée. Il y en a une autre en 1989. Pour 2018, donc 200 œuvres environ, 160 tableaux, dessins et gravures, et puis 25 sculptures issues de nombreuses collections, qu'elles soient publiques ou privées, françaises ou étrangères, pour résumer une carrière qui débute en 1920 avec succès, mise à mal par la crise de 29, donc petit exil dans le sud pour Fautrier, et plus exactement dans les Alpes, il devient moniteur de ski, lui est même gérant d'un hôtel avec une boîte de nuit, on imagine Fautrier aux platines. Bon, il revient à Paris en 40. À ce moment-là, il fréquente Malraux, Francis Ponge, Paul Éluard, Georges Bataille, Jean Paulhan et quelques autres. C'est à partir de cette époque qu'il réalise ses séries les plus célèbres. Otage à la fin de la guerre, puis Objet, Nu, Partisan au milieu des années 50. 60, pour finir à la mini-bio, Fautrier partagera le Grand Prix de peinture avec Hans Hartung à la Biennale de Venise. L'exposition a pour commissaire Dieter Schwarz et pour scénographe Cécile De Gauss, comme indiqué dans les documents de communication. Notre campagne pour la reconnaissance des scénographes porte ses fruits. Merci au Musée d'Art Moderne de la ville de Paris. Jean Fautrier, matière et lumière, c'est le titre de cette rétrospective qu'on peut découvrir jusqu'au 20 mai au Musée d'Art Moderne de la ville de Paris. Et nous y suivons tout de suite Corinne Rondeau.
Bah, écoutez,
on
oui,
s'est croisés, Corinne.
Oui, on...
Vous en sortiez, bah, j'y entrais.
C'est ça. Ouais. Et on puis s'en j'y suis retournée.
Oui, moi aussi. On s'en est pas vraiment remis.
Non, parce que ça, c'est vrai que c'est une découverte vraiment pour moi, puisque la série Otage que je connaissais, comme beaucoup d'entre nous, m'avait laissé, je dirais, aveugle sur une très très grande partie de son œuvre. Et je dois dire que pour moi, c'est vraiment une révélation, vraiment. D'abord, c'est une œuvre que je trouve très radicale. Par ailleurs, c'est une peinture peu aimable, donc elle a tout pour me convenir. Notamment avec le début, puisqu'on a vraiment des tableaux figuratifs, là, pour le coup, et quelques tableaux figuratifs qui vous mettent déjà très très mal à l'aise, on va dire. Notamment des portraits, trois vieilles femmes et la concierge qui était la concierge de Fautrier, qui a un teint verdâtre, soutenu par du violet. Elle a des mains d'homme, et quand on s'approche du tableau, on voit qu'elle ne voit pas d'un œil. Et à côté, donc, on a ces trois femmes toutes les trois regardent vers le sol, mais pas par, je dirais, une forme d'abandon ou quelque chose, mais qui relèverait peut-être d'une vie qui est celle de la terre, plutôt. Et elles ont toutes des mains très serrées, très fermées. Elles ont un rapport vraiment très physique. Et de part et d'autre, on a un paysage qui est un peu comme la fin d'un césanisme dont il aurait rejeté l'impressionnisme, avec des petites touches comme ça de peinture verdâtre, verte, enfin, toute une... un panel de verre qui est très étonnant. Moi, je ne m'attendais pas du tout à ce type de paysage chez Fautrier. Et puis de l'autre côté, une promenade au Tyrol avec une série de personnages absolument d'une laideur immonde, mais qui ont toutes comme une sorte de masque qui fait une scène de théâtre. Il y a quelque chose vraiment de très théâtral, de très pesant. Il y a quelque chose qui s'impose de suite là à sa peinture, même si c'est très très laid, même si c'est acide. Même si on a envie de faire un pas de retrait plutôt qu'un pas vert, il y a quelque chose qui est là, c'est sûr. Et puis ensuite, on continue dans l'exposition avec des sanguines de nus qui ont une très grande densité, je dirais, de contraste. On voit d'ailleurs quand même qu'ils travaillent avec des contrastes au point d'ailleurs que le blanc n'est pas de la lumière, c'est vraiment par le travail d'une certaine effacement, estompage de la sanguine qui a quelque chose d'un rapport massif. Et d'ailleurs, il y a un portrait aussi d'un personnage qui s'appelle l'Hercule. Et ce portrait, c'est vraiment le portrait de quelqu'un qui ne bouge pas. Il est là, et c'est tout. Et la peinture de Fautrier est un peu comme ça. Et puis, quand on avance encore, d'un coup, là, c'est un peu un coup de foudre. On a des paysages qui sont des glaciers, des lacs. Et donc, on est dans les années 20, 24, 25, 26 à peu près. Et là, d'un coup, c'est une autre peinture qui frappe l'œil, je dirais, parce que c'est gratté, la peinture est grattée. Ce qu'on estime, on pourrait penser que ces paysages pourraient être lumineux, ils sont d'une obscurité incroyable. Et moi, ça m'a fait penser, j'ai eu l'impression de voir du Dante en peinture. Vous savez, le début de l'enfer, hein, toi qui entres ici.
Dans la forêt sombre.
Tu ne comptes plus sur. Plus d'espérance.
Laisse derrière toi toutes tes espérances.
Toutes tes espérances, toute espérance. Et ces paysages, c'était ça. C'est-à-dire, abandonne tout. Et la peinture de Fautrier, c'est ça. C'est là. Et en même temps, c'est. Ne cherche pas quelque part, quoi que ce soit. Ne cherche pas à atteindre quelque chose que tu pourrais anticiper. Ben voilà, il y a quelque chose qui s'impose à soi. Puis dans la grande courbe du musée, il y a la série des Noirs qui sont d'une force prodigieuse parce qu'on voit qu'il peint très très vite. Il le dira d'ailleurs après, mais on le voit quand on est sur la toile, on voit qu'il peint très très vite. Là où peut-être il passerait un peu plus de temps, c'est quand il fait ressortir justement par les Noirs cette figure qu'il a dessinée très très vite. Ce sont beaucoup d'écorchés. Beaucoup, indépendamment de quelques silhouettes de nus, mais aussi de fleurs qu'on peut voir. Et ces écorchés, il y a une intensité de la peinture à laquelle on n'est pas indemne, quoi. Et ça ne va pas arrêter tout au long de l'exposition.
Alors, comme l'exposition, et c'est heureux d'ailleurs, pour une fois, je ne me plaindrai pas du nombre d'œuvres, parce qu'elle est très longue, il faut prévoir quand même beaucoup de temps, et voir éventuellement pouvoir y revenir. Mais du coup, on va partager la visite entre vous trois. On va poursuivre avec Stéphane Coréard.
Oui, on va poursuivre avec moi, malheureusement, j'ai envie de dire, parce que personnellement, j'aurais aimé m'arrêter après cette salle noire, puisque... Effectivement, j'aime, et c'est l'image que j'avais d'ailleurs aussi de l'âpreté de la peinture de Fautrier. On connaît le terme que Jean Paulhan lui a accolé, l'enragé. Les deux pôles pour Jean Paulhan dans la peinture étant Braque, le patron, et Fautrier l'enragé. Il y a aussi ce fameux portrait de lui qu'a fait Dubuffet. C'était, je crois, même d'ailleurs le seul peintre dans cette fameuse exposition de portraits que Dubuffet a fait chez Drouin, où il y avait beaucoup d'écrivains. Et c'est Fautrier araignée au front. On a l'impression même qu'il est peut-être une araignée dans la tête. Et pour moi, l'exposition montre absolument le contraire d'une certaine manière. D'ailleurs, il y a une vidéo et qui pour une fois est très intéressante au milieu de l'exposition où on voit Fautrier dialoguer avec Jean Paulhan. On a l'impression de voir des académiciens d'un autre siècle. C'est quand même très très étonnant.
Ce qui n'est pas faux.
Monsieur un peu bedonnant, enfin surtout Jean Paulhan, parce que Fautrier lui est très sec.
Ah, et oui, dans cette sec comme sa peinture.
Et dans cette émission justement télévisée, Fautrier a ces mots: je suis comme un chat, je gratte mes saletés et je m'en vais très propre. Et en réalité, effectivement, c'est le moment où ça bascule, après cette période noire. Mmh. C'est-à-dire que là, il a appris à faire ses besoins et à repartir tout propre, et à se lécher. Et d'ailleurs, je dois dire que ses contemporains ne s'y sont pas trompés, puisque cette exposition des otages, cette fameuse exposition des otages de 45, chez Drouin, qui reste un mystère encore aujourd'hui, parce qu'on ne sait pas quand les tableaux ont été peints réellement par Fautrier. Et on ne sait pas non plus si le titre même d'otage et tous les titres, il y a la juive, etc., ont vraiment été donnés pendant la guerre ou pour donner un vernis, faire justement cette peinture de la libération, si je puis dire, enfin, ou cette expiation. D'ailleurs, l'anecdote intéressante, c'est que c'est Francis Ponge, le poète, puisqu'il y a beaucoup d'écrivains autour de Fautrier qui devait faire le texte du catalogue, et finalement, c'est à Malraux qui le demande, puisqu'évidemment, Malraux est une caution de la résistance, caution gaulienne beaucoup plus forte. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ces otages ne possèdent aucune force tragique. En réalité, ils sont comme toute la deuxième partie de l'œuvre de Fautrier. C'est-à-dire qu'il, pour moi, c'est un Janus. C'est-à-dire qu'il a vraiment, c'est un dieu à deux têtes. Il est à la fois, il est dans la robustesse d'une espèce de travail de maçon, presque à la truelle, et il veut en même temps la délicatesse de la fleuriste. Il met des pigments, des couleurs assez tendres, de l'aquarelle par-dessus tout ça. Et d'ailleurs, c'est ce que Malraux, qui lui-même, après avoir vu l'exposition des otages, s'interrogeait, puisqu'il disait: ne sommes-nous pas gênés par certains de ces roses et de ces verts presque tendres qui semblent appartenir à une complaisance de Fautrier pour une autre part de lui-même? Et c'est cette autre part, je pense, qui fait qu'il est effectivement toujours tiraillé. D'ailleurs, Dubuffet lui disait, pour ce qui est de ces histoires d'otages, d'oradour, etc., je m'en foutais, je ne voyais pas d'otages dans tout cela. Moi, ce qui m'a beaucoup dérangé...
Vous faites beaucoup parler les morts, Stéphane Coréard. Mais on a le droit de ne pas être d'accord avec ces morts illustres.
Absolument, oui. Sauf que là, c'est le problème que moi j'ai avec l'exposition. C'est pourquoi cette exposition. Je rebondis sur ce que vous avez dit en introduction. Il y a déjà eu beaucoup d'expositions de Fautrier.
Enfin, beaucoup. Non, la dernière remonte
à
30
ans. Dire pourquoi. Je suis surpris parce que d'abord, cette exposition n'est en rien une relecture de l'œuvre de Fautrier.
C'est une pure
exposition chronologique. Oui, mais on ne voit absolument pas ce qu'elle apporte aujourd'hui. Il n'y a pas de lecture contemporaine de cette œuvre. Non, mais il n'y a pas de lecture contemporaine de cette œuvre. Et c'est d'autant plus surprenant, effectivement, que je vais encore faire parler.
Non, mais on ne se plaint pas quand il y a 10 Vermeer au Louvre. Ce n'est pas une relecture. On voit un ensemble d'œuvres d'un même artiste.
Normalement, quand même, quand on fait une rétrospective d'un artiste, surtout que Fautrier n'est pas tout à fait un contemporain de Vermeer, on essaye quand même de montrer son actualité.
Bah oui, mais moi, je ne suis pas pour les rétrospectives qui on veut forcément faire dire quelque chose. D'ailleurs, on en parle souvent pour faire rentrer au chausse-pied, quand on a fait l'expo clé au centre Pompidou, on voulait lui faire dire quelque chose qui n'avait aucun sens. Si vous vous en souvenez bien,
oui, oui, mon cher Stéphane. Je m'en rappelle tout à fait. Mais là, en tout cas, je n'ai pas senti cette acuité. Je suis d'accord avec, de nouveau, je vais citer quelqu'un, avec Hubert Damiche, quand il dit que l'œuvre de Fautrier, somme toute, est mineure au regard de la problématique autour de laquelle s'ordonnent les développements de la peinture contemporaine. Moi, c'était absolument
alors,
mon avis.
Alors, il y avait un grand nom de Corinne Rondeau, mais on va d'abord entendre Florian Guettet, mais on est là pour débattre, de toute façon, ça tombe bien. Florian Guettet et Jean Fautrier.
Bah, moi, je trouvais cette exposition intéressante. Évidemment, je n'ai pas vu celle de 89, mais...
C'est d'ailleurs pour vous qu'elle a été faite, pour répondre à Stéphane, pour les gens de moins de 40 ans, 45, exactement. 50.
Non, je ne sais pas si ça propose une relecture effectivement contemporaine, mais en tout cas, ça permet de bien voir cette évolution interne à l'œuvre de Fautrier, comment il est parti de la phase figurative, qui est quand même très bien représentée dans cette exposition, puisque c'est que 12 années, en gros, de 1920-1932. Et là, elle occupe quand même, on va dire, un bon quart de l'exposition, sinon un bon tiers. Et comment, en fait, on bascule vers cet art informel dont il est un des précurseurs. Et ce qui est intéressant, c'est que l'art informel ne peut pas être... confondu avec l'art abstrait. Justement, c'était une sorte de troisième voie entre l'abstraction géométrique et le stéréotype de la peinture figurative. Effectivement, ce que moi, l'impression que m'ont fait les tableaux de Fautrier, c'est que ils cherchent à montrer les échecs de la forme à signifier, c'est-à-dire des formes qui sont ou des figures qui sont comme ça déficientes, qui arrivent pas à dire et qui laissent juste des impressions. Et c'est assez, c'est pour ça que c'est très pour moi affectif en fait ce rapport à la peinture. Alors ça marche ou ça marche pas. Il y a effectivement moi des tableaux qui m'ont vraiment médusé et puis d'autres qui m'ont laissé beaucoup plus froid. Mais en tout cas on joue sur ce ressort émotionnel là, parce que on est souvent sur l'impression, le souvenir. Qu'est-ce que laisse en fait comme impression un objet, une personne, un paysage. Alors, par contre, j'ai pas très bien compris le titre en fait de cette exposition qui avait matière et lumière. Matière parce que effectivement on pourrait dire que c'est un matériologue ou matériologiste, je sais pas comment on peut dire, mais en fait lui-même disait faire de la matière c'est pas très malin. Donc il y avait quand même aussi effectivement il y a une présence comme ça de peinture, c'est du dessin marouflé sur une toile posée à plat, il peint à plat, ensuite il y a une couche d'enduit et puis ensuite il fait jouer comme ça des pigments ou de l'encre qui va se répandre d'une façon un peu naturelle et désorganisée. En tout cas, il n'a pas forcément le contrôle sur tout ça. On le voit bien d'ailleurs dans les otages, qui sont vraiment une tache. Il n'y a pas un visage clairement. Il y a une tache blanche. Et à partir de là, s'organise la composition. Et lumière, bah pareil, parce que effectivement, c'est pas forcément moi ce qui m'a retenu sur son œuvre, parce que effectivement, on a toute cette période noire qui est, on commence. Enfin, on n'est pas plongé dans l'or, mais enfin, on est quand même dans une forme d'indistinction avec quelque chose de très très sombre, certainement dans la palette chromatique, mais aussi dans les sujets. C'est-à-dire que j'ai trouvé ça intéressant, par contre, de mettre les nus en face des écorchés, parce que finalement, c'est vrai que les nus ont quelque chose d'extrêmement spectral, fantomatique, voire cadavérique. Ils se fondent comme ça dans le fond, ils ont l'air un peu, pas décharnés, mais en tout cas désaffectés. Il y a quelque chose comme ça d'une forme d'impassibilité. Les têtes et les corps sont pas forcément mis ensemble, donc il y a parfois des images comme ça de décapitation, pratiquement. Les écorchés sont quand même des formes très violentes, avec donc c'est des sangliers, des moutons, le lapin évidemment, avec un ton qui est pas du tout gracieux, qui est pas du tout heureux, quoi, qui ressemble presque à une matière fécale, quoi. Il y a quand même quelque chose comme ça, un peu cuivré, mais très marronasse, quoi. Donc effectivement, on comprend un peu mieux sur la fin en fait de l'exposition, où là on retrouve effectivement une palette chromatique très plus exaltée, plus joyeuse, avec des violets, des roses, des verts pâles, des bleus, etc. Mais moi, tout le long, je me suis quand même posé la question de savoir si ce titre me donnait vraiment une bonne indication. Sur l'exposition.
Vous voyez comme quoi il ne faut même pas mettre de titre, moi je pense, Stéphane Correa. Jean Fautrier, ça suffit pour aller voir cette rétrospective. Corinne Rondeau, quelques réponses par rapport aux citations nombreuses de Stéphane Correa?
Oui, je pense qu'on sur la lecture contemporaine, moi je vois de la contemporanéité dans cette rétrospective. Je trouve que c'est quelqu'un qui est dans la nécessité de peindre. Il n'est pas du tout dans une gratuité. Même sa question de l'informel, il y a dans ce dialogue là dont vous parlez attendez, il faut que
pour trouver les notes, Jean Paulhan et Jean Fautrier.
Il se retrouve et en fait il dit l'informel n'a pas commencé, il va commencer, que puis-je vous dire d'autres pour vous rassurer. Et en fait, l'informel n'a toujours pas commencé, parce qu'en fait, c'est un chemin qu'il est en train de faire, et moi, il me fait penser à Nietzsche dans le Zarathoustra. Essayez et interrogez, voici mon chemin, quel est le vôtre? Et cette exposition, moi, je vous assure que c'est la première fois que je sors d'une exposition en me disant, je crois que cette œuvre va rester longtemps, parce qu'elle m'a fait beaucoup penser. Elle ne m'a pas dit comment il fallait peindre. Elle m'a dit, voilà quelqu'un qui a traversé une impasse, il est dans l'aporie. C'est-à-dire, quand vous ne voulez plus faire du figuratif, qu'est-ce que vous faites d'autre? Voilà, c'est noir, parce que ces noirs sont le début d'une certaine forme de décomposition ou de déconstruction de la peinture à travers ces écorchés. En même temps, il ne perd pas la notion du corps, parce qu'on commence par du corps, et ce sont des corps qui vont être plus spectraux, effectivement, où ils vont la matière va être beaucoup moins figurée, et en même temps, dans un second temps, avec ses otages, il va y avoir cette matière. Et là où il n'y a plus de figure, il y a de la matière. Donc, il y a quelque chose d'une corporealité extrêmement forte. Et donc, on voit bien, enfin, en tout cas, de mon point de vue, c'est quelqu'un qui est tout le temps en train de rechercher quelque chose d'irréductible. Et cette irréductibilité, c'est ce qui le conduit à tout le temps avancer dans sa peinture, y compris jusqu'à travailler en série. Car la question de la fin de l'exposition à partir des otages, et y compris même les sculptures, ces têtes qui sont absolument admirables, parce qu'elles ont un primitivisme, et ce primitivisme, il est aussi dans l'œuvre de Fautrier, à savoir qu'est-ce que je peux faire quand justement je ne suis plus dans les lignes dans lesquelles on reconnaîtrait quelque chose. Donc je trouve que pour le coup, quelqu'un qui en plus s'est mis, je dirais, à distance et à la marge, parce que je trouve que c'est une peinture de la marginalité, il ne ressemble à aucun artiste dont on pourrait dire art informel. Je voudrais même qu'on ne l'appelle pas artiste informel. C'est quelqu'un qui a rejeté les systèmes du cubisme et du surréalisme. Donc d'une certaine manière, il se dit, que puis-je faire en dehors des systèmes ? Et c'est là l'irréductibilité. C'est-à-dire que quand vous dites, il faut que j'y passe, il faut que j'y passe avec mes moyens. Donc moi, je trouve qu'il a une conscience de l'intranquillité qui, moi, repose sur l'idée de la mort. Vraiment, parce que les grandes séries, c'est fusiller. Enfin, les fusiller, parce que les otages viennent de... Je vous laisse, pardon.
Pour laisser la parole quand même à Stéphane Coréard et au reste de l'émission. Pardon, Corinne Rondeau.
Oui, surtout que je me sens de nouveau tout à fait seul. Moi, ce qui m'a dérangé...
Vous avez remarqué.
Il travaille non seulement par série, mais je dirais même de manière extrêmement répétitive, puisqu'on apprend... il l'a fait devant la caméra. Il peut peindre deux fois de suite exactement le même tableau et s'en est confondant. Et d'ailleurs, il a inventé ce qu'on appelle les originaux multiples. Mais non seulement il peut peindre deux fois... Non, mais ça, on peut lui laisser ça quand même. Il peut peindre deux fois le même tableau, il peut le peindre 20 fois, mais surtout il peint exactement de la même manière une tête d'otage, un fusillé ou un tampon encreur ou une boîte de conserve. Donc effectivement, c'est ce que j'ai appris dans le catalogue, c'est ce qu'on appelle l'informel, puisque c'est la définition qu'on donne Pollan, c'est les anciens peintres commençaient par le sens et lui trouvaient des signes, mais les nouveaux commencent par des signes auxquels il ne reste plus qu'à trouver un sens. Alors vous me reprochez, Arnaud, et je l'entends, de faire trop de citations, mais c'est l'autre raison pour laquelle je ne comprends pas cette rétrospective dans le sens où elle n'est pas une relecture, c'est que le catalogue ne propose aucune vision nouvelle de l'œuvre de Fautrier. Tous les textes ne sont que des exégèses des textes écrits sur Fautrier de son vivant.
Mais c'est parce qu'ils n'ont pas demandé à Corinne Rondeau, c'est pour ça, ils auraient dû.
C'est très dommage, en même temps c'est très mal payé, mais...
c'est un autre problème d'économie de là.
Mais donc premier texte c'est Fautrier et Pollan, Fautrier et Ponge, Fautrier et Malraux, Fautrier et Bataille.
Oui, mais d'accord, mais pourquoi faire une rétrospective? Moi j'aimerais quand même que vous entendiez ce que je viens de dire tout de même, parce que je veux dire, s'il est contre les systèmes, alors qu'on voit bien que tout un ensemble d'artistes sont en train de se mettre sur les mêmes autoroutes, on a là l'image de quelqu'un qui a dit « je fais mon chemin ». Et on sait bien que le chemin, ça n'est rien tant qu'on ne l'a pas fait. Donc c'est au bout. Donc il faut arrêter de nous saouler avec ça, quoi.
Moi, je pense qu'on peut dire que Dubuffet a fait un chemin très proche, mais qui, moi, m'intéresse beaucoup plus. Je n'ai pas senti ce côté enragé. En fait, je suis ressorti avec, au contraire, la certitude que Fautrier était tout sauf enragé. Et de nouveau, je vous prie de vous reporter au catalogue pour avoir la description, dans une lettre de Pollan que je ne vais pas lire, de la fin de Fautrier, qui est mort littéralement de rage. Il est mort en se bavant, de rage.
Vous voyez bien
qu'il
était enragé.
Mais ça, je trouve ça merveilleux. Bon. J'aurais aimé voir ça dans sa peinture.
Non, mais enfin, on peut pas discréditer une rétrospective sur un catalogue qui exhume de vieux textes.
Sur Pollan aussi,
sur le fait qu'elle propose pas une lecture contemporaine. Moi, c'est ça aussi que je voudrais juste dire. Pourquoi faudrait-il toujours faire dire des choses à une œuvre qui existe, pour moi, avec une force absolument... Oui, avec une grande force du début à la fin. Moi, je vois pas le moment où il est devenu propre, où il se lèche. Je vois pas cette césure. Je vois quelqu'un qui en effet cherche la répétition, l'identique des mêmes tableaux. Bon, enfin, je peux pas vraiment adhérer à cette chose-là, mais bon, il nous faudrait plus de temps. Il y a un tout dernier mot de Florian Guettet.
Juste partager peut-être une hypothèse. Une hypothèse.
Voilà. Allez.
Parce qu'en plein milieu de l'exposition, on a un texte qui est une lettre, en fait, qui, je crois, à Pollan, où il raconte, en fait, sa vie, son autobiographie. Et comme ça, il raconte vraiment, il commence par sa grand-mère. Et c'est vrai qu'en fait, il avait un lien à sa grand-mère qui est morte très jeune, qui était vraiment quand lui était très jeune et qui était vraiment la figure maternelle. Et en fait, on lui fait porter la culpabilité de ça. Parce qu'on lui dit qu'elle est morte, peut-être parce qu'il lui a donné un coup dans le sein un petit peu avant et qu'elle est morte d'un cancer à cause peut-être de ce coup, et donc il grandit avec cette forme de culpabilité. Et du coup, c'est vrai que lire, bon, après c'est une interprétation psychologique, mais enfin de relire son appétence pour le corps meurtri, le corps ouvert, le corps autopsié, le corps supplicié, le corps fusillé, à travers cette anecdote biographique là, moi ça m'a accompagné pendant dans tout mon parcours.
Vous préparerez la prochaine rétrospective Fautrier. Il y aura un texte de Corinne Rondeau dans le catalogue. Il y aurait pu avoir un texte de Baslitz, hein, dont on parlait ensemble il y a 15 jours, qui est un grand admirateur de Fautrier. On imagine un peu pourquoi. Mais bon, Jean Fautrier, on va dire ça comme ça, même pas de sous-titre. Jusqu'au 20 mai, allez voir par vous-même au Musée d'Art Moderne de la ville de Paris. Et si vous voulez lire de vieux textes, vous prenez le catalogue, donc, qui est publié aux éditions Paris Musée. Quoi, Corinne Rondeau ?
Non, mais lire simplement le texte L'Enragé, Fautrier, L'Enragé de Paulhan. Mais Paulhan, que j'aime beaucoup, n'a pas dit que des choses formidables sur Fautrier.
À suivre dans la dispute, saison Discord, Fille de la Nuit au Palais de Tokyo.
France Culture,
La Dispute,
Arnaud Laporte.
Suite de cette émission consacrée ce soir aux arts plastiques en partant à la découverte de la nouvelle saison d'exposition du Palais de Tokyo intitulée cette fois Discord, Fille de la Nuit. Pas moins de 8 propositions de taille et d'ambition différentes. On va commencer par l'une des grandes expositions, celle de Naïb Belloufa. Enfin, il faut dire un projet. C'est plus une exposition, ça s'appelle un projet. L'ennemi de mon ennemi, dans un commissariat de Guillaume Desanges avec Marie-Lou Thiébaut et Noam Segal. Belloufa. Alors, est-ce que vous allez être seul, Stéphane Corrière ? Je ne sais pas, mais je pense que vous allez dire du bien, non ? Je me trompe ?
Je suis très chiffonné par ce début d'émission, parce qu'on a passé une demi-heure à parler d'un artiste des années 30 aux années 50.
64 ?
Oui, enfin, parce que je ne voulais pas parler de la fin. Effectivement, je sens que je vais être seul pour cette exposition.
Ah, savez,
de
non, Nel...
J'ai dit,
c'est
je
mon lancement.
J'ai dit, je le sens, mais je pense que vous avez raison.
Ah, je ne sais pas.
Et je suis effectivement très chagriné parce que j'aurais aimé parler pendant une heure de cette exposition, mais ce n'est pas grave, j'aurai d'autres occasions.
Vous proposer une émission à la direction.
De le faire, parce qu'effectivement, c'est une exposition qui m'a absolument passionné.
Un projet. C'est quoi le projet ?
Non, moi, je n'appellerais pas ça un projet. J'ai une exposition, on va pas jouer sur les mots, c'est pas une rétrospective en tout cas.
Quand même.
C'est un projet d'abord qui commence par, certains lui ont reproché d'ailleurs, un résumé des épisodes précédents, je dirais. Ça commence par une salle d'œuvre de Naïb Belloufa dans laquelle on voit un certain nombre de ses films, de ses installations, et notamment d'ailleurs un film, La domination du monde, qui avait été montré ici même au Palais de Tokyo dans sa précédente exposition, puisque lui non plus n'est pas
rétrospective quoi.
Lui n'est pas à sa non plus à sa première exposition. Non, c'est plutôt un résumé des épisodes précédents, mais il n'y a pas que ça parce que dans cette salle il y a un très beau film de cette année de 2018 qui s'appelle People's Passion, Lifestyle, Beautiful Wine, etc., etc. Je vous donne pas le titre complet. Mais ensuite quand on rentre dans ce que effectivement là on va appeler un projet, puisque il y a du collectif, il y a énormément d'objets empruntés aux quatre coins du monde, ça parle de propagande, ça parle de la guerre. En fait, il y a des modules qui sont chacun thématiques, qui portent des images, des maquettes, etc. et qui sont mises en mouvement par des robots qui viennent rebattre les cartes, en permanence et créer des rapprochements qui sont hasardeux. Mais éventuellement producteur de sens, des rencontres fortuites, finalement de notions qui pourraient paraître antinomiques, puisque c'est un peu ça finalement le point de départ de l'exposition, c'est de partir du principe que toutes ces propagandes vont s'annuler, finalement que tout n'est que propagande, que toutes les images sont des images manipulées par le pouvoir, par des pouvoirs, et que finalement tout ça pourrait s'annuler. Je pense que ça c'est peut-être le projet qu'on peut voir de manière assez primaire. À mon avis, l'exposition va bien au-delà de ça. Donc c'est vrai que ces modules, on va dire, sont consacrés donc à des notions qui, plus d'ailleurs qu'antinomiques, à mon avis, sont réversibles. ce qui est déjà beaucoup plus contemporain. Anonymat versus casting, droit du sol versus des îles artificielles pour milliardaires dans des eaux territoriales offshore. Il s'attaque aussi, ce qui est très présent, à la diffusion des images aujourd'hui par la publicité, par les réseaux sociaux. Il y a notamment un film sur l'attentat de, les attentats de, du 14 juillet à Nice, qui est très saisissant sur la perception par, par la jeunesse en temps réel de ces attentats. Ce qu'on appelle l'explicit content sur Facebook, l'appropriation, le détournement, la spoliation, etc. Et c'est vrai que dans un premier temps, on a l'impression que tout ça s'annule et on comprend pas bien finalement où où l'exposition veut nous emmener. En réalité, il y a plusieurs entrées. Moi, j'ai eu le déclic avec un très court film qui est dans l'exposition de Jean-Luc Godard, un film d'une minute que je connaissais pas, qui est issu d'une commande en 82 pour les un an de, du premier septennat de François Mitterrand. On a demandé à une vingtaine de réalisateurs de faire des films d'une minute sur le changement, sur l'idée de changement. Et Godard, lui, a fait un film sur l'impossibilité de faire ce film, une espèce de film où il se frappe, il s'autoflagelle, etc. Et là, ça a fait un déclic total pour moi, parce que j'étais transporté 10 ans en arrière dans l'exposition de Jean-Luc Godard au Centre Pompidou, qui était une des, à mon avis, une des plus belles expositions de la décennie, une exposition assez décriée, une exposition chantier, où il avait finalement la même volonté d'embrasser la totalité du monde d'aujourd'hui, dans sa géographie et dans sa temporalité, ce qui est là aussi, je pense, le projet de Naïb Belloufa, qui finalement se repose d'ailleurs, comme l'exposition de Godard, sur les constats de Guy Debord. Principalement deux. Le spectacle n'est pas un ensemble d'images, mais un rapport social entre des personnes médiatisées par des images. Ça, je pense que c'est le premier point très important. Et le deuxième, qui est très présent dans le travail de Naïb Belloufa, plus on parle de transparence, moins on sait qui dirige quoi, qui manipule qui et dans quel but.
Belle introduction. Et avant de faire tourner la parole, une bonne nouvelle, Naïsa Toundoy, pour les réseaux sociaux.
Oui, un message de soutien.
Donc, on vous ouvre le temps qu'on vous ouvre un micro. Allez, allez-y.
Oui, un message de soutien pour Stéphane. Non, vous n'êtes pas seul. L'expo de Belloufa est passionnante.
C'est Nous voulons tout sur Twitter qui vous écrit. Florian Guettet.
Mais on nous a même pas demandé notre avis, alors ouais. On ne sait pas ce qu'on pense.
Bah, non, en plus, voilà, votre avis.
Très honnêtement, c'est un peu la saison de la réconciliation avec le Palais de Tokyo pour moi. J'ai été très très surpris par cette expo proprement épuisante, hein, mais elle est inconfortable et épuisante. Mais tant mieux qu'on rompe avec le confort de lecture, parce que de toute façon, on vit dans un monde où la lecture et l'information ne se donnent plus sous un mode confortable. Donc cette forme, en fait, moi, m'a beaucoup interloqué, interpellé. C'est une sorte de grande salle de jeu et d'information. Alors, il présente ça comme un moteur de recherche agrandi ou adapté à la taille d'un espace, et d'un espace assez grand, puisque c'est pas Tokyo, balisé par une signalétique tellement abondante qu'elle ne signale plus rien. Qui produit une lisibilité trouble, d'autant qu'il y a des modules qui sont automatisés, donc qui se déplacent, qui créent des sortes de collisions entre des idées, des associations d'idées, des contrastes, ou au contraire des rapprochements. Donc tout ça est très mobile. Nous-mêmes, on est vraiment perdus dedans, avec une sorte de frustration à pas pouvoir tout lire ou tout voir. Hein, clairement, il y a même des textes qui sont tellement petits que de là où on est, on ne peut pas le voir. Il y a un brouhaha sonore avec un entrechoc de musique militaire, de cris, de bruits d'impact, de musique pop, hein, puisqu'à un moment on a quand même Joseph Beuys qui chante plutôt le soleil que Reagan, sur un air de variété, un peu à l'allemande. Hein. Et cette sursollicitation-là reproduit les conditions d'une saturation cognitive ou d'un épuisement de notre attention, qui est peut-être un peu moins subi que d'habitude, presque évolu, parce qu'on est dans cette position de spectateur ou de public. Donc j'ai trouvé ça vraiment intéressant, d'autant que je trouve qu'il évite un écueil, c'est que moi j'ai pas eu le sentiment que tout se nivelait, que tout était confondu. J'ai trouvé au contraire qu'il y avait beaucoup de choc entre tout ça, et que il y avait pas d'égalitarisme ou de traitement égalitaire entre les différents éléments qui sont là. Au contraire, je crois que c'est une exposition qui montre que malgré le grand chaos que peut être l'information sur Internet, eh bien il y a encore l'incommensurable. Il y a encore des choses qu'on ne peut pas forcément mettre à côté et que ça, heureusement, ça nous choque encore. Donc pour tout ça, j'ai vraiment été perdu et j'étais content d'être perdu. Alors ce que Stéphane a sauté dans le truc, c'est entre la première salle effectivement qui est un peu une sorte de mini rétrospective, on va dire, de Beloufa, d'autant qu'il y a des pièces qu'on a retrouvées au Marac qui étaient au Marac encore il y a pas si longtemps. Entre les deux, il y a une toute petite salle transitoire, on va dire, qui présente des œuvres de Courbet, présentées en parallèle avec un logiciel d'échange de monnaie virtuelle, de biohacking, pour montrer un truc très intéressant qui moi a été ma grille de lecture. Courbet en fait on l'a pris pour un révolutionnaire, etc. Et au moment où il commence à avoir cette réputation de révolutionnaire, il vend, il n'a jamais vendu autant. Et donc il y a toute cette forme d'ambiguïté de la contestation ou de la révolte, et qui est très propre à la conscience que Beloufa a de son propre art, à savoir qu'on est toujours à la fois complice et critique du système quand on est un artiste contemporain, et il fait remonter ça à la modernité de Courbet, et je trouvais ça vraiment malin.
Bon, vous voyez bien, je vous demande votre avis, mais je voulais laisser croire encore un instant à Stéphane Coréard qu'il était toujours seul contre tous, mais parce que c'est quelque chose qu'il croit, et là, il a une démonstration du contraire. Corinne Rondeau, Naïl Beloufa.
Moi, j'ai beaucoup aimé parce que.
Voyez, Stéphane, non, vraiment, vous êtes bien eu.
Effectivement, c'est un peu la réconciliation sur ces 2000 mètres carrés parce que j'ai été effectivement perdue parce qu'il y a notamment une œuvre de Beloufa où il y a un film et en même temps il y a un dispositif mécanique à reflets qui fait qu'en fait ce qu'on voit est fragmenté et on est aussi avec des projections de nos propres ombres et donc il y a quelque chose qui se joue dans vous êtes impliqué et en même temps la place de votre implication elle est double, elle est ambiguë et là je rejoins vraiment le mot de Florian, pour moi c'est vraiment un espace de l'ambiguïté comme les internets d'ailleurs où on trouve tout et son contraire, le pire comme le meilleur. Et moi, j'ai eu ce sentiment de waouh, qu'est-ce que c'est que ce machin ? Et en même temps, je me suis dit, on est dans un registre de l'image, parce que c'est ce qui fait image, c'est ce qui nous porte aussi dans un certain nombre de relations. Et par ailleurs, quand on arrive après la salle de Courbet, on a tout ce qu'a décrit tout à l'heure Stéphane, à savoir ces modules qui se déplacent par un procédé algorithmique et qui d'un coup est une manière de changer l'espace en permanence. Donc en fait, on change la relation. Et moi, je trouve que cet espace, il est ambigu parce que justement, là où porte l'intérêt pour moi de cette exposition, c'est sur la relation qui nous échappe. Donc en fait, on est soumis à un ensemble d'objets, de slogans, de citations, de figurines, mais aussi de reproductions, puisqu'il n'y a pas des tableaux, hein, il y a aussi des copies. Et bien là, en fait, on se dit, mais qui fait ça ? Puisqu'en fait, on a des modules où on ne sait pas qui les téléguide. Et même si c'est un programme, il y a bien quelqu'un qui l'a programmé. Donc, qui fait quoi ? Pourquoi il y a un mouvement constant ? Et effectivement, on est perdu dans cette exposition parce que le mouvement, on finit par être dans ce bric-à-brac. Moi, j'ai même pensé à appeler Time de Tati parce que j'ai trouvé qu'il y avait de l'ironie, il y avait de l'humour et il y avait aussi du sérieux. Parce que quand on a, le 11 septembre,
le
14 juillet, mais aussi ce coin qui est organisé avec un faux métro Crimée, bon c'est la guerre de Crimée, et en même temps on a des affiches de devenir militaire, il y a marqué devenez vous-même, et à côté il y a un jeu, le Battlefield Bad, je sais pas trop quoi, où il y a marqué devenez plus que vous-même ou quelque chose comme ça, ça s'appelle devenez plus que vous-même, c'est ça, Battlefield Dad Company. Donc il y a deux affiches, l'une pour devenir soldat et l'autre pour jouer, et on se dit effectivement on est tout le temps soumis à des slogans, à des mots d'ordre, et il se joue avec la société du spectacle où il y a Trump et Macron au défilé du 14 juillet. Et donc, et à côté, on a un jeu vidéo qui est interactif, où on vous dit « follow me ». Bon, bah, bref. Et donc, moi, j'ai pas du tout envie d'être militaire, mais en même temps, on est pris dans toutes ces grilles. Je trouve qu'en plus, l'idée géniale de l'expo, c'est que l'expo est un cul-de-sac. Il faut repartir. Et on est soumis à tout ce qui est notre environnement. Et notre environnement, c'est évidemment les autoroutes de l'information, ou comme le dit Beloufa, un Disney de l'information, c'est ça qu'il a voulu faire. Et pour le coup, effectivement, il nous renvoie une image à partir de laquelle il faut se poser la question de la nature de la relation, parce que c'est ça qui est opaque. Et en même temps, C'est nous mettre dans ces disjonctions qui relèvent de notre espace propre, c'est-à-dire celui de la communication, qui est celui à la fois qui nous domine et à celui auquel on accepte de se soumettre. Voilà, c'est la servitude volontaire. Mais là, j'ai trouvé qu'il y avait une grande intelligence.
Bon, vous voyez, carton plein, parce que je vais souscrire avec des mots beaucoup moins forts et surtout beaucoup moins longs pour cette exposition. Nel Belloufa, j'étais un tout petit peu circonspect au départ, et puis parce que oui, on le sait, tout ça, etc. Sauf que on parlait il y a quelques temps de la rétrospective, enfin non, de la grande expo à la carte blanche de Camille Henrot, dont j'aime toujours la vidéo Grosse Fatigue. J'avais l'impression d'être en 3D immersive avec l'installation de Belloufa. Si Camille Henrot avait réussi sa rétrospective, elle aurait peut-être fait celle de Nel Belloufa.
Bah, c'est exactement ça, parce que moi j'ai envie de dire, après Pollan, j'ai effectivement envie de dire Belloufa le patron. Parce que je pense que c'est vraiment lui le patron de cette génération d'artistes, parce qu'on voit bien que là il fait la synthèse, il fait pas non seulement la synthèse, il dépasse complètement les problématiques qui encombrent totalement en ce moment les espaces d'exposition, c'est-à-dire le retour sur les luttes et le moment héroïque où l'art ces luttes, et en même temps tout ce qui a été fait à la suite des Cultural Studies, et je trouve que lui, il arrive à dépasser ça, et il est peut-être le seul.
Bon, ben voilà, carton plein pour L'ennemi de mon ennemi, un projet Nel Belloufa, c'est dans la saison Discord au Palais de Tokyo jusqu'au 13 mai.
France Culture,
La Dispute,
Arnaud Laporte. Get the right.
Et on reste au Palais de Tokyo pour le troisième sujet de cette dispute art plastique, avec l'un et l'autre, pour Roger de Cadératia et Jean-Jacques Lebel, commissaire Katel Jaffrès. Il y a déjà débat, parce que j'ai peut-être déjà dit une bêtise, c'est peut-être pas Katel Jaffrès, c'est peut-être bien Jean de Loisy qui est le commissaire de cette exposition Cadératia à Jean-Jacques Lebel. Dans le doute, on a cité les deux noms, comme ça au moins c'est fait. C'est un enragé Jean-Jacques Lebel, cela dit depuis longtemps. Florian Guettet, premier regard sur ce duo.
Un enragé qui s'est peut-être un peu adouci ou rasséréné. On le voit d'ailleurs dans l'entretien qu'il mène avec Cadératia, qui est segmenté, qu'on voit tout au long de l'exposition, où il y a une forme de...
Vos camarades font des gestes en même temps. Bon, essaye de vous déstabiliser, mais ça ne prendra pas.
Alors l'exposition s'appelle l'un et l'autre. C'est un peu l'antithèse de l'exposition qui est au-dessus, parce qu'elle est extrêmement lisible, elle est extrêmement documentée, elle est extrêmement on comprend très vite le propos. Hein, il y a pas, c'est tout ce qui est là se dit de lui-même. L'un et l'autre, c'est l'histoire de ce duo hein, qui a une vraie amitié, qui nourrit une vraie amitié, un vrai respect aussi réciproque. Ils se sont rencontrés en 2012 à Metz, à Pompidou-Metz pour l'exposition en 1917, et puis c'est la première fois qui réalisent un projet commun, alors qu'ils sont en dialogue en fait depuis toutes ces années. Donc c'est l'un et l'autre, cette histoire de ce duo, mais aussi le rapport de l'identité de soi à l'autre, à l'étranger. Alors qu'est-ce qu'on trouve exactement? Ben, en fait, elle est organisée autour de deux grosses installations, l'une de Lebel, l'une de Datia, autour desquelles sont disposées des boîtes noires qu'ils appellent les cabanes, dans lesquelles sont exposés les objets de leur collection personnelle, puisque c'est quand même la rencontre entre deux collectionneurs. Alors ce sont des objets très 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 divers. Alors ça rappelle évidemment les curieuses dont parlait le roi Gourand dans le geste à parole, c'est-à-dire ces objets insolites qu'on collectionne et dont on veut prendre soin parce qu'ils interpellent et parce qu'ils sont simplement insolites. Et puis ils ont disséminé quelques-unes de leurs œuvres. Ils ont invité aussi d'autres œuvres, d'autres artistes à prendre des œuvres. Il y a des œuvres acquises aussi, celles de Maneret, de Molinier, et puis des extraits de textes qui sont là aussi pour ponctuer finalement, faire des transitions, on va dire, entre ces boîtes noires, textes de Césaire, de Luxembourg, de Perret, Primo Levi, etc. Alors moi j'ai trouvé que, enfin moi elle m'a intéressé cette. Alors bien sûr c'est pas la première fois qu'on voit séparément vraiment en fait ces collections. Il n'y a pas une grande valeur ajoutée à les voir entrelacées, etc. Mais pour ceux qui les ont pas forcément vues, bah c'est déjà voilà une belle découverte. Moi, je reste convaincu de l'intérêt de ces collections, notamment bah, les masques maladie hein, qu'on connaît bien chez Kaderatia, qui sont des masques qui montrent le mal ou la possibilité, la menace de la maladie. Donc, ce sont des masques complètement déformés, avec une bouche tordue, avec un œil, etc. Ou tous ces objets aussi, encore qu'on trouve dans la collection d'Atia, qui mettent en visibilité la blessure plutôt qu'elle ne la cache, comme c'est le cas dans les sociétés occidentales. Et donc, on voit voilà un plateau japonais, chinois, en porcelaine, qui est réparé avec des crosses agrafes métalliques. En plus, c'est assez bien fait, puisqu'on peut voir aussi derrière, on peut apprécier les objets en général, en avant, en arrière, ce sont des vitrines à double face, ce qui permet aussi de pouvoir enfiler, au moins symboliquement, les masques. Et puis, on peut avoir un tapis arménien, pareil, qui est un peu voilà rapiécé, avec un morceau de coton, qui est pas tout à fait la même couleur, pas tout à fait la même taille, pas de la même texture. Ça dit voilà l'intérêt de montrer la suture, montrer la cicatrice, pour qu'on puisse tirer des leçons de l'histoire. Et les deux le font à leur manière, notamment dans leurs deux grandes expositions. Alors, celle de Kaderatia, c'est vraiment sur la construction de l'ennemi européen ou occidental, donc qui est en général le musulman, l'indigène africain. Alors on le présente au début du siècle comme une forme de sauvage, d'animal qui vient attaquer ces gentils soldats français sans défense. Et puis finalement tout ça est mis en lien pour le coup avec une forme de nivellement un peu à contrario de ce qu'a fait Neil Belloufa, avec aujourd'hui les unes sur le terrorisme et la construction du djihadiste. Alors après, je suis un peu plus réservé sur la deuxième installation de Lebel, qui me semble polémique à bien des égards et qui me semble un peu grossière dans son propos. Je peux y aller
trois petits points, parce que vous avez eu beaucoup la parole et que l'émission filme, et on reviendra vers très vous bien. sur cette pièce. Corinne Rondeau.
Oui, alors, écoutez, est-ce que cette exposition doit être au Palais de Tokyo? Je ne le crois pas. Je trouve que ça ne relève pas de la scène de création contemporaine. Voilà. Si on peut se louer d'une scénographie qui est plutôt classieuse, je trouve que, alors dis-nous, c'est pas une exposition classique qu'on a fait, non, bien sûr, en utilisant des mots comme rhizome et laboratoire expérimental, c'est totalement ringard. Alors bien sûr, on peut rejoindre le propos de Florian qui consiste à dire, bah si on l'a pas vu, c'est bien de le voir. Moi j'ai envie qu'ils se disent que peut-être il y a eu d'autres recherches que le roi Ngourand et fait collectionner des œuvres qui relèvent de l'anthropologie. Il y a quand même des réflexions autrement plus stimulantes. J'en ai un peu marre de ces articles qui sont des commentateurs sur la question du mauvais occidental et du pauvre sauvage et toutes ces déclinaisons, alors qu'en fait on en est peut-être à des choses qui sont beaucoup plus complexes et plus stimulantes encore, qui soient au niveau politique, anthropologique et même esthétique. Donc moi, leur collection commence à me fatiguer, parce qu'on a déjà vu ces histoires de Lebel à la Maison Rouge. J'avais refusé de rentrer dans sa boîte noire pour nous montrer ces images d'Abu Ghraib. J'y suis rentrée cette fois-ci. Effectivement, il me laisse dans une indifférence totale, car ce n'est pas ça que nous avons à voir ni à quoi il faut penser. Je pense que c'est le statut vraiment des images, comme Belloufa l'a fait. Et la violence, elle se trouve à cet endroit-là et pas évidemment sur la manifestation de la violence, parce que je ne suis pas évidemment en train de défendre ce qui s'est fait, au grand que non. Donc, quand vous avez des artistes qui disent la torture c'est mal, tout ce qui est de l'ordre de la ségrégation, du racisme. Mais bien sûr, bravo messieurs, bravo. Évidemment, mais je veux dire, moi j'ai pas besoin d'avoir des artistes qui sont des commentateurs faussement anthropologues. J'ai besoin d'avoir des artistes qui sont dans une radicalité, comme Belloufa ou Fautrier, pardon Stéphane. Et quand par exemple vous avez écrit sur un mur Rosa Luxembourg, où il est écrit « La liberté est toujours la liberté de celui qui pense autrement », j'ai envie de dire, écoutez, ouais, Rosa Luxembourg, elle a pas fini comme vous. Rosa Luxembourg était une révolutionnaire. Rosa Luxembourg résister, alors que vous n'êtes que des commentateurs de ce que devrait être la résistance, et bientôt ils vont nous écrire en plus le futur. Donc moi, cette exposition, c'est nul et non avenu.
Bon, voilà qui est clair, Stéphane Coréard.
Moi, je voudrais dire qu'en fait, j'avais adoré l'exposition de Fautrier, parce que je trouve que tout ce que vient de dire Corinne Rondeau est très libératoire, parce que c'est évidemment ce qu'on pense, c'est-à-dire que c'est, et je n'arrive pas à comprendre personnellement non seulement pourquoi cette exposition est là, mais comment on peut faire cette exposition en même temps que celle de Neil Belloufa, ou alors c'est une très grande perversion de la part de Jean de Loisy, ou alors c'est de l'inconscience.
Allez savoir.
L'exposition, effectivement, est totalement le contraire. Les artistes se mettent systématiquement dans la posture des bons et des
Discord,
gentils.
Hein, la saison du Ballet
Tokyo. Eux, ils sont toujours les bons et les gentils, alors que chez Nail Belloufa, ouais. il est quand même beaucoup plus sagement dans une position socratique de dire tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Et en même temps, dans ce mouvement de Bordien, de dire ce qui est beau déjà, c'est de se mettre en assaut contre un ordre établi, ce que là, évidemment, on ne ressent pas du tout. Évidemment que tout ça est très sympathique, de mélanger ces objets. On connaît ça par cœur, effectivement, parce qu'on l'a déjà vu de leur part à tous les deux, parce que et à Jean de Loisy, qui est le commissaire de l'exposition, on a vu effectivement la Maison Rouge, on a vu les maîtres du désordre au Quai Branly, qui étaient sur le même registre. On a vu de Kader Atia au Musée cantonal de Lausanne en 2015 exactement la même chose. Les installations dont on parle, on les a déjà vues. Abou Ghraib était déjà à la Maison Rouge. Donc c'est vrai qu'au bout d'un moment, on se demande un petit peu à quoi tout ça rime. En fait, ça rime, à mon avis, à une seule chose, et on va pas, on pourrait dire près d'autre chose, dévoiler plus de dessous des cartes, mais au-delà de ça, c'est que finalement, les deux artistes ont un point commun, qui est d'être des plasticiens assez maladroits, assez peu inventifs. En revanche, ce sont de très bons passeurs et communicants, et même, on pourrait dire, si on veut être gentil, des activistes. Lebel, lui, il a connu les surréalistes et Duchamp, puisque son père était le meilleur ami de Duchamp. Ensuite, il a fait le lien, ce qui n'est pas rien, avec les poètes de la Beat Generation et tous les gens de la poésie sonore. C'est lui qui a introduit, évidemment, et non pas créé, mais introduit les happenings en Europe. C'est déjà très bien. Je veux dire, après, que ce soit pas un artiste formidable ou même peut-être pas du tout un artiste, c'est pas très grave. Kader Atia a ouvert en 2016 la colonie qui, sur des ambitions certes un peu plus modestes, d'hybrider, comme il dit, savoir-vivre et faire savoir... Mais là, on est déjà bien un peu dans l'agence de pub quand même. Mêle ce qu'il appelle l'agora des fêtes et des expositions. C'est un lieu qui marche très bien. C'est un lieu qui, je pense, est utile pour beaucoup de paroles qui s'y croisent, beaucoup de choses qui s'y font. Et c'est déjà formidable. Mais qu'on les laisse faire ce qu'ils savent faire. Mais là, ils sont absolument, à mon avis, à contre-emploi.
Un petit commentaire sur Twitter, Aïssa Toundoy. Notre même ami du jour, hein, oui, nous voulons tout.
C'est toujours nous voulons tout. Qui est d'accord avec Corinne Rondeau, les installations sont très engagées, provocatrices, mais absence de profondeur, de complexité, c'est toujours sur l'expo Kader Atia, Jean-Jacques Lebel.
Alors, la polémique à Abou Ghraib, polémique,
Florent Gatté. Un court mot quand même pour dire que peut-être le lien entre les deux, c'est qu'après la saturation de Nail Belloufa, il y a un truc un peu espace chill dans cette exposition-là.
Pas très gentil,
c'est
là.
Bah, non, si, pourquoi ? Enfin, il y a un moment aussi où effectivement, le propos est convenu, est entendu, tout le monde est d'accord, mais moi, je me suis retrouvé, voilà, à retrouver aussi le plaisir d'avoir des objets un peu fétiches. Je ne vais pas au Quai Branly, donc finalement, je trouve ici le moyen de me rassasier. Je trouve que c'est une expo qui fait pas de mal, et puis ça me fait toujours du bien de voir.
Non, il fait du mal.
Là, vous êtes seul là.
Ou Bataille qui viennent justifier justement cette présence
justement,
du monde.
Mais justement, ils se servent de Bataille, c'est inadmissible.
Là, alors, justement.
Parce que Bataille, ils sont du côté du bon. Alors,
effectivement, Bataille, moi j'ai l'impression que Bataille, c'est le moyen d'introduire à le poisson soluble, qui est donc l'installation un peu polémique de Lebel. Et effectivement, c'est une œuvre polémique parce qu'il y a la violence un peu gratuite, parce qu'il y a une forme d'impudeur qui est totalement assumée par Lebel, qui dit moi je veux dessiller les yeux, je veux les forcer à regarder et puis regarder ce qu'il y a d'indécent, c'est le fait qu'on floute les visages ou les sexes, mais par contre qu'on laisse les blessures, etc. Moi elle me gêne cette pièce parce que en fait il faut se rappeler quand même l'histoire d'Abou Ghraib, et en fait ce ne sont pas les officiers, en fait on voit pas la torture quoi, on voit en fait les formes de maltraitance des gardiens de la prison qui ont été sévèrement condamnés, alors que la torture se passe ailleurs, que les bombardements qu'on a présentés sont quand même très anecdotiques par rapport à la géopolitique et les décisions géopolitiques. Donc finalement, j'ai l'impression que là, il y a une instrumentalisation de l'image qu'il veut dénoncer, mais qui en fait, il l'alimente parce qu'il vient parler à côté du propos, il vient faire de l'anecdote le symptôme de la grande histoire, ce qui est faux. Et là, pour le coup, il faut lui dire. Par contre, il y a peut-être quelque chose d'intéressant à voir la banalité du mal.
Dernier mot, Corinne Rondeau sur Bataille.
On ne peut pas confondre les images et le « je veux ouvrir les yeux des gens ». Je veux dire, s'il y avait eu une contre-information du temps d'Hitler, on l'aurait su. Hein. Et par ailleurs, on ne confond pas la littérature de Bataille avec ça, parce que ce n'est que ça. Et je suis d'accord avec le terme de « communicant » de Stéphane, parce qu'ils ne sont que du côté du bon communicant. Et j'estime que c'est faire le plus grand mal à l'art que de ne pas nous mettre dans une situation de tension, d'ambiguïté, de confusion même, c'est-à-dire chercher justement où est-ce qu'on en est, et pas de dire « voilà, le bon côté, c'est celui-là ». Ils le savent ? Ah ben bravo pour eux.
Stéphane Coréard, 20 secondes.
Je voulais quand même pas finir sans dire que dans les vidéos qui sont assez navrantes et qui sont dans chaque cabane où il parle des objets. Il y a parfois une confusion et une démagogie totale. Et notamment, il y en a une où Jean-Jacques Lebel, qu'on ne peut pas soupçonner de ne pas connaître Marcel Duchamp, parle d'un poilu anonyme qui a transformé une baïonnette en faucille. Et il dit le génie anonyme du type qui ramasse ça par terre et qu'il transforme en autre chose, c'est le même génie qui anime Duchamp quand il prend un urinoir et le transforme en fontaine en changeant l'angle de vue. Alors là, pour moi, la messe est dite.
Bon, au Palais de Tokyo, ce soir, on est très heureux d'avoir écouté cette dispute jusqu'à 19h40. Un peu moins, évidemment. Depuis, on parlait de l'un et l'autre, un projet de Canaratier et Jean-Jacques Lebel. C'est la saison Discord au Palais de Tokyo. Discord, dispute jusqu'au 13 mai. On va conclure l'émission avec le jeu de la dispute et Camille André qui nous rejoint pour nous rappeler tout d'abord la question du jeu d'hier au soir et nous donner sa réponse, Camille.
La question était, avec les bijoux de pacotille, Céline Mia Baumgartner retrouve les planches du théâtre du Rond-Point. Pour quelle autre pièce y était-elle présente de 2004 à 2005? Et il s'agit de Le Château de Seine.
Le Château de Seine. On fait gagner ce soir des places de cinéma pour le film Avant que nous disparaissions de Kiyoshi Kurosawa, qui est sorti aujourd'hui dans les salles. Quelle est la question, Camille?
Eh bien, par quelle compagnie théâtrale fut créée la pièce Avant que nous disparaissions, dont le film de Kurosawa est l'adaptation cinématographique?
Votre réponse avec vos coordonnées postales à envoyer à auditeurfc@radiofrance.com. Toutes les informations sur cette émission sont à retrouver sur notre site internet franceculture.fr à la page de la dispute, un site sur lequel vous pouvez également réécouter nos émissions et vous abonner au podcast. Demain, émission exceptionnellement cinéma pour un jeudi, car vendredi ce sera littérature parce que la dispute vendredi sera en direct et en public du Salon du Livre Paris à la Porte de Versailles. Demain donc c'est cinéma avec Lucide Como, Corinne Rondeau et Antoine Guillot. À notre affiche Duel au Soleil de King Vidor et Otto Brauer qui arrive dans la magnifique collection Ultra Collector chez Carlotta. La Belle et la Belle de Sophie Filière et Chien de Samuel Benchetrit.